Bien, bonjour à tous et à toutes, et nous allons attaquer aujourd'hui sur une petite webconf, bien sûr, qui a pour objectif de répondre à vos multiples questions. Alors, j'ai exceptionnellement quand même lu d'avance les questions, comme ça, histoire d'avoir un ordre d'idées générales, et je tiens à vous remercier de la qualité des questions posées, parce que pour une fois, j'ai l'impression que les gens qui ont posé des questions ont réfléchi un peu avant, quand même, hein. Donc, ça vole un peu plus haut, et c'est heureux. Voilà. Alors, ben, je vais commencer. Donc, une question de Jean-Lucas. Si j'ai bien compris, le grand événement dont tu parles sera l'inversion des pôles magnétiques qui nous fera tous passer par la nuit de l'âme, polarité sur Terre, et en nous égale à zéro. Il n'y aura plus de jus au sens propre et au sens figuré. Donc, 3 jours et 3 nuits à nous retrouver uniquement en prise directe avec nous-mêmes et notre état de conscience. Toute vie extérieure aura disparu. C'est un très bon résumé, Jean-Lucas. Mais j'ai bien noté aussi que la date de cet événement dépendra justement de notre conscience à vouloir le provoquer. N'est-ce pas la même chose que la théorie de la masse critique? Et dans ce cas, qu'en est-il de la volonté propre d'Urantia Gaïa de vouloir ascensionner si l'humanité traîne des pieds? Alors, il y a effectivement les deux, c'est-à-dire qu'il y a une masse critique, hein, et donc tant que cette masse critique n'est pas, on va dire, arrivée, Terre-Mère va, ni plus ni moins, laisser faire. Mais dès que la masse critique va être arrivée, c'est elle qui prend les commandes. Donc c'est elle qui va, à ce moment-là, décider d'appuyer sur le bouton et personne d'autre. Voilà. Donc elle continue toujours sa musique, simplement. C'est comme quand vous êtes deux et que vous marchez, bah, si l'autre a un petit peu de retard, c'est pas grave, vous vous arrêtez, vous attendez qu'il vienne, que l'autre arrive à votre niveau, et une fois qu'il est à votre niveau, vous lui prenez la main, et à partir de ce moment-là, vous lui donnez le rythme que vous voulez. Donc c'est ce qui va se passer pour Terre-Mère. Vous savez que Terre-Mère est totalement reliée à l'humanité, hein. Donc elle sait exactement ce qui se passe au niveau de l'humanité, et donc de chacun d'entre nous, et c'est elle qui va décider du moment. Donc le résultat, si nous ne bougeons pas notre cul, eh bien effectivement, elle attendra encore un tout petit peu, mais dès que la masse critique va être atteinte, elle attendra pas 1 an, 2 ans ou 3 ans pour passer à l'action. On va dire que ça sera quasiment immédiat, quoi. Voilà. Donc c'est bien l'humanité qui va décider du moment où il va y avoir effectivement cette inversion. Mais bon, faut quand même relativiser. Une semaine pour maman Orantia ou 1 mois, ça veut rien dire, ou 1 an, ça veut rien dire, surtout quand vous parlez en millions d'années ou en milliards d'années. Donc, pour elle, notre temps linéaire ne veut absolument rien dire en termes de proportion. Voilà. Donc, une question de Christelle. Penses-tu qu'il serait possible qu'il y ait également un changement de rotation de nos véhicules de lumière ou des polarités de nos chakras, autant pour l'homme que la femme, et quelles en seraient les conséquences ou symptômes? Alors, il pourra y avoir effectivement une inversion de rotation de nos Merkabas, mais il n'y aura pas inversion de des polarités de nos chakras. Il faut pas tout confondre. Parce que celui qui est en bas restera toujours connecté à Terre-Mère et il n'a pas de raison de changer de polarité. Terre-Mère ne change pas de polarité. C'est simplement son axe magnétique qui s'inverse, enfin, qui change de position géographique, mais sa polarité ne s'inverse pas. Donc, dans mes nombreux schémas, vous avez toujours vu que je mets Terre-Mère avec le signe plus et Papa Soleil avec le signe moins. Parce que voilà. Et donc c'est comme ça. Donc ma Terre-Mère restera toujours positive par rapport au Soleil, on va dire. Donc elle, ça changera pas. Si ça ne change pas, nos chakras ne changeront pas en termes de polarité. Par contre, effectivement, comme le sens magnétique sera inversé, eh bien il est de fortes chances que nos Merkabas tournent dans un autre sens. Mais comme vous le savez qu'on est complémentaires, si la dame se met à tourner à gauche et puis enfin à droite et puis l'homme à gauche, ça changera rien, ils seront toujours en rotation inverse. Mais ceci est sincèrement du détail, parce que ça tombe tellement vite que en fait ça ne changera pas grand-chose pour nous. Disons que dans les révélations qu'on fait, on va pas dans ce niveau de détail, parce que c'est secondaire d'une certaine manière. Alors, comment un être peut-il définir si son corps de lumière, Merkaba et autres, se déploie suffisamment pour le protéger des perturbations actuelles et à venir? Eh bien, ça, c'est difficile à dire, pour la simple bonne raison, c'est que nous sommes en permanence, on va dire, avec des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il y a, comme vous le savez, déjà les rythmes de l'horlogerie céleste, c'est-à-dire qu'il y a des vagues d'énergie, donc il y a des hauts et des bas, et ça, vous commanderez rien du tout là-dessus, donc vous pouvez très bien être en haut à un moment donné et être en bas le jour suivant. Donc une fois que vous allez être plus synchrone, on va dire, avec l'horlogerie céleste, eh bien vous découvrirez que il y a des jours où vous pourrez absolument rien faire, parce que les énergies sont pas là pour ça. C'est-à-dire sont pas là pour vous aider à le faire, hein, mais plutôt à vous immobiliser. Donc là, il faut sortir de la programmation que l'on a en disant ouais, c'était toujours comme ça avant, on faisait comme ça, et quand j'ai décidé de faire, j'avais l'énergie pour le faire. Dites-vous bien que là, on était comme des petits vers de terre qui faisaient selon leur idée, sans être connectés, on va dire, à la machine. Donc, plus un marcheur augmente sa fréquence, et plus il va se synchroniser avec la machine. Et donc, quand la machine fait une baisse de régime, il y a une baisse de régime, mais c'est pour tout le monde, y compris les êtres de la nature, etc., etc. Donc, c'est tout le monde à la même enseigne. Donc déjà, savoir que à tel moment tu es à tel niveau de fréquence peut simplement 2 heures plus tard, ou 3 heures, ou 24 heures plus tard, faire que tu sois totalement à l'inverse. Donc on ne peut pas dire que quand tu as atteint un certain niveau, il est définitif. Parce que c'est comme un bateau qui est sur les grosses vagues de la mer. T'es toujours dans le bateau, t'es toujours à l'horizontale, par contre le bateau, lui, il change de hauteur parce que ça dépend de la hauteur des vagues. Donc ces vagues, tu n'as absolument aucune emprise sur ces vagues. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, se protéger des perturbations, c'est toujours dans une attitude de dualité, de dire « il y a moi et il y a dehors ». Et en fait, ceci va être de moins en moins le cas, puisque le but de se rebrancher à la source, c'est de faire un avec tout, et c'est-à-dire de ne pas se protéger. C'est-à-dire de pouvoir ressentir absolument tout. Et ce qui est important, ce n'est pas de se protéger, mais de voir comment vous gérez l'information elle-même. Parce que souvent, c'est notre traduction des choses qui font que nous prenons peur ou pas. Et donc, c'est ça qui crée des blocages, qui crée des inconvénients, des inconforts, et ce n'est pas l'énergie en elle-même. Donc, quand il y a, on va dire, des énergies qui peuvent être perturbatrices, qui sont simplement dues à des changements au niveau de la Terre, eh bien, on les ressent, on les regarde, et on se prend pas la tête. Par contre, si on laisse tourner le petit vélo, là, on est mal barré. Hein, c'est-à-dire qu'on va imaginer, ouais, là, je suis attaqué par des entités, il y a ceci, il y a cela, et comme nous sommes, vous le savez, des co-créateurs en puissance, eh bien, nous donnons consistance à ce dont nous avons effectivement peur. Donc, dans la démarche, on va dire, ascensionnelle, il y a donc un certain nombre de gens qui sont orientés, entre guillemets, vers une protection, parce qu'ils disent, oui, mais moi, je me fais sucer, et ceci, il y a des entités de tel type, ceci, cela. Dites-vous bien que si une abeille s'approche de vous, c'est parce qu'il y en a une dedans. C'est-à-dire qu'on attire à nous ce qu'il y a en nous. Donc si vous êtes attiré si vous attirez certaines choses à vous et que ça vous est déplaisant, dites-vous bien que cette chose est d'abord en vous, sinon la chose ne viendrait pas. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Alors le truc, c'est qu'il faut surtout pas mettre le petit vélo là-dedans. C'est-à-dire que si vous dites « ah oui, je suis attaqué par telle entité », c'est une attaque intérieure que vous avez, et ça ne vient pas de l'extérieur, mais c'est matérialisé par l'extérieur. Dites-vous bien que nous sommes un esprit dans une bulle, et cette bulle est un écran de projection. Donc il n'y a absolument rien d'extérieur qui vient à vous. Ce n'est simplement ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui se projette sur votre écran. Donc c'est pour ça qu'il faut rester assez cool et assez zen par rapport à ça, et surtout, vous en prenez note, mais vous ne prenez pas la tête. Donc souvent, je reçois des emails de personnes me disant « comment on fait pour se protéger ?» Si vous voulez vous protéger, ça veut dire que vous avez en vous une zone, on va dire, sensible, faible, qui fait appeler à ça. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme l'alcoolique de base, qui dit, je rechute en permanence, dès qu'on me présente un verre, je saute dessus comme un malade. Oui, parce que dedans, le verre est déjà là et vous l'avez déjà bu. Donc, si vous savez prendre du recul et regarder ce qui est pour ce que c'est, mais sans comment dire, avoir peur de rechuter d'une manière ou d'une autre, bien vous ne toucherez pas au verre. Parce que ça sera juste un élément d'information et vous ne lui accorderez aucune importance, aucune attention, aucune énergie. Donc de ce fait, eh bien, le verre restera sur le bar et restera plein. Donc, pour savoir si notre corps de lumière se déploie suffisamment pour le protéger des perturbations actuelles et à venir, dites-vous bien que vous avez absolument rien à sauver. Ce que nous appelons notre corps est une cristallisation, on va dire, par rapport à une expérience donnée. Donc, dans les futurs articles et vidéos, je reviendrai sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est, bon, on va dire, facile à comprendre, mais qu'on peut pas amener sur la table comme ça, de but en blanc, parce que, généralement, il y aura un rejet violent. Donc, faut y aller progressivement, et c'est ce que je ferai, hein, dans les prochaines vidéos. Alors, je dis pas que ça sera celle de lundi ou de mercredi prochain, pas du tout, mais dans les temps à venir, je vais de plus en plus aborder les fondamentaux. Mais il est évident qu'il fallait quand même une préparation. Donc tout ce qui va arriver comme perturbation sont des perturbations principalement dues à une interprétation personnelle. Donc ce qui veut dire dues à principalement notre ignorance. Il n'y aura pas de perturbation autre véritablement. Vous allez le voir, au fur et à mesure qu'on avancera sur le chemin, quand vous êtes sur le chemin, quand vous êtes dans la lumière, vous ne pouvez que souhaiter une chose, laisser faire la lumière, parce qu'elle, elle sait exactement ce qu'elle a à faire. Par contre, si vous avez les chocottes et vous avez les genoux qui tremblent, là, vous pouvez vous dire que c'est pas la lumière qui vous fait ça, mais c'est que la peur de ce qu'elle va faire, donc c'est bien votre mental ego qui est derrière et qui déclenche tous ces automatismes. Donc, sachez quand même qu'on est des bouts de charbon, qu'on est quand même vachement bien noirs, même si on semble lumineux, on a encore un paquet de noirceur à nettoyer, et donc la meilleure façon de faire, c'est simplement de laisser faire la lumière, comme on dit. Hein. Durant la journée, mon esprit cristallin se dépose sur moi et en moi, puisqu'il est une partie de moi. Quelle sera son évolution ou son rôle en tant qu'esprit cristallin durant les grands changements ? Ben, il sera simplement à tes côtés, en toi, sur toi, comme tu veux, ça dépend où tu en es avec lui, mais de toute façon, lui sera là. Mais ce qui va faire toute la différence, c'est bien sûr ta conscience ici et maintenant. C'est-à-dire que nous sommes un esprit ayant une conscience limitée dans ce corps, et l'objectif est de regarder ce qui se passe et de rester, on va dire, équilibré, centré et ancré. Donc ton esprit cristallin, lui, il est déjà ancré, il est tout, lui. Donc il a pas cet exercice à faire. Lui, il va simplement regarder comment tu réagis. Donc lui, il n'a pas de soucis. Il faut savoir que ton esprit cristallin, lui, ne vit pas ce que tu vis. Il est en dehors de cela, puisque il est, comment dire, dans d'autres dimensions qui ne sont pas affectées directement par ces changements. Par ces changements vibratoires, parce que c'est surtout ton corps physique et donc bien sûr la conscience que tu as qui va sentir les choses, parce que ton corps physique est un outil qui te permet de sentir rapidement ce qui se passe, ce qui n'est pas le cas quand tu es dans les éthers. Quand tu es dans les éthers, eh bien, si tu veux avoir le goût de la fraise, c'est très difficile d'avoir le goût de la fraise, la texture de la fraise, la couleur de la fraise. Tu vas arriver à le cerner, mais ça te prendra beaucoup de temps et d'énergie, alors que quand tu es incarné dans un corps de matière, c'est instantané. Et donc c'est en cela que le corps physique est un cadeau énorme. Et donc c'est bien lui qui va ressentir toutes ces choses-là. Et ensuite, c'est ta conscience qui va interpréter. Et donc là, c'est toujours pareil, vous pouvez interpréter, on va dire, positivement, hein, c'est-à-dire, si par exemple vous dites, oh, je me sens vachement fatigué, eh bien, vous allez réagir positivement en disant, bah oui, mon corps travaille énormément parce qu'il est en train de se dégager de la merde, ou vous pouvez interpréter ça relativement négativement en disant, oh, il y a quelqu'un qui me suce. Vous voyez, et vous dites, bah oui, je suis fatigué, tiens, je vais rencontrer quelqu'un, après elle est partie, j'étais fatigué. Alors, c'est vrai que si vous rencontrez des personnes véritablement 3D, ben, d'une certaine manière, ils vous en pompent, c'est clair. Mais c'est pas forcément le cas. Parce que si vous rencontrez quelqu'un qui est un peu plus lumineux ou qui a une vibration plus haute que la vôtre, même si mentalement il n'est pas lui consciemment dans une démarche, on va dire, ascensionnelle, eh bien peut-être qu'il est vibratoirement plus haut que vous. Et c'est vous qui allez le sucer, mais en ayant cet apport d'énergie complémentaire, eh bien votre corps va pouvoir en bénéficier pour décrasser encore plus. Le résultat, vous aurez effectivement la sensation d'être fatigué. Mais pas parce qu'il vous aura sucé, non, parce qu'il vous aura donné un paquet d'énergie et que c'était vous en fait qui l'avez sucé. Donc vous voyez que il faut savoir prendre du recul par rapport aux interprétations. Il y en a toujours deux, une qui est, on va dire, positive, une qui l'est beaucoup moins. Donc le discernement est quelque chose, on va dire, d'important dans le sens où c'est celui qui va vous permettre de savoir où sont les plateaux de la balance. Alors les plateaux de la balance ne sont jamais en dualité simple, il faut s'en rappeler ça. C'est-à-dire c'est pas oui-non, 100%, 0%. Ça sera toujours une double dualité, c'est-à-dire qu'il y aura des zones de gris. C'est-à-dire que ben, autant le plateau, on va dire, lumineux pourra avoir un certain poids, le plateau plus sombre pourra en avoir lui aussi un. La totale fera 1, fera 100%. Mais ça veut pas dire que ça sera 100% de blanc ou 100% de noir. Il y aura un pourcentage des deux qui donneront au total 1. Et donc c'est là, c'est en cela qu'on dit être équilibré, hein, c'est-à-dire de regarder ce qui est et de voir ce qui se passe. Voilà. Donc nos esprits cristallins, eux, sont relativement cool pendant toute cette période de transition. La seule chose, c'est qu'ils ont un gros travail à faire sur notre partie cristalline, hein. Et donc toute transformation qui est ressentie par notre corps, eux, ils ont des réparations à faire derrière, des réparations ou des recablages. Donc ils sont au boulot, quoi, à fond les manettes. Une question d'Isabelle. Peux-tu expliciter quand tu dis notre vécu de lumière remplacera notre bouclier magnétique qui va s'affaiblir? Où vas-tu développer ça dans la prochaine vidéo? D'une certaine manière, comprenez que nous sommes nous-mêmes un vortex sur pattes. Donc il y a le grand vortex de moment, on est d'accord, mais nous sommes un vortex sur pattes. Donc de ce fait, plus notre vortex est puissant, plus en fait nos véhicules de lumière sont puissants. Et plus ils sont puissants, quand vous le savez, c'est comme les particules magnétiques, hein, d'un aimant, et bien plus il y a de particules magnétiques et plus le morceau de ferraille est aimanté. Donc le truc, c'est que c'est comme ça que ça va fonctionner au niveau de la planète. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'individus vont effectivement, naturellement, quand le champ magnétique va s'écrouler, eux, ce sont des mini-piles électriques. Et donc, ils vont prendre le relais. Et ça va être le nombre qui va faire la différence. Donc, le nombre est bien sûr la capacité individuelle. Donc, l'idéal, c'est qu'il y ait quand même une bonne pyramide. C'est-à-dire, pas tout le monde avec 0,0001%, mais qu'il y en ait quelques-uns qui soient à 1, 10, 20, 30, 50, voire à 100%. En effet, au niveau magnétique du bouclier, eh bien, quand quelqu'un, on va dire, est un immortel, voire un être ascensionné, il est déjà quasiment à pratiquement 100%. Donc quand vous avez un individu ou un couple d'individus qui deviennent Christ, dites-vous bien que s'il y a un Christ sur cette planète, au moment où ça se passera, eh bien, à lui tout seul, il pourra en fait maintenir le bouclier de la planète entière. Donc voilà pourquoi il est important que chacun d'entre nous avance le plus loin possible dans sa vibration, car plus nous élevons notre vibration, et plus le nombre sera important, et moins les dégâts seront importants à leur tour. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de choses bénéfiques qui vont se passer. Et c'est pour ça que Terre-Mère attend qu'il y ait une masse critique. Une masse critique, c'est pas un nombre d'individus, c'est en fait comment dire, une multiplication entre un nombre et on va dire une puissance individuelle. Donc on va dire la puissance, le wattage. C'est-à-dire que plus dès qu'il y aura elle aura atteint, disons que l'humanité aura atteint certaine puissance, un certain wattage, à ce moment-là, eh bien, Terre-Mère déclenchera la chose. Donc, ce qui veut dire que ça se fera pas n'importe comment, à n'importe quel moment. Ça se fera quand l'humanité sera prête à pouvoir encaisser. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, je vais développer des choses, c'est évident. Hein, parce que là, je crois que maintenant, on n'a plus le temps d'attendre 3 ans avant qu'on vous dise tout ce qui se passe exactement. Une question de Mireille. Le champ magnétique va diminuer. Ce qui est enfoui en l'homme va sortir. L'humain va se libérer. Il va se libérer. Mais ce qui va sortir, vous le savez bien, c'est du fioul, c'est de la noirceur. Ma question, je vis des émotions difficiles, des blessures qui se réveillent en moi et sans que je le veuille. Je fais ou dis des choses que je ne veux pas faire ou dire, je réagis donc, et cela m'amène à éloigner de moi des personnes amies. Et voilà que je suis envahi par un sentiment de culpabilité. Est-ce lié à ce changement magnétique ? La réponse est oui. C'est-à-dire, puisque la merde en sort, eh bien, il est évident que, vous savez, c'est comme les toilettes qui refoulent, on n'a plus envie d'aller aux toilettes. Hein ? Ça refoule. Donc, c'est la même chose, les amis s'écartent. C'est absolument naturel. Donc, il n'y a surtout pas à culpabiliser. Imaginez que vous êtes quelqu'un de vachement bien, et d'un seul coup, vous pétez un bon coup, et ça pue, mais alors d'enfer. C'est sûr que dans la minute, 3 mètres autour, il n'y a plus personne. C'est pas qu'ils vous aiment pas. C'est que c'est peu supportable, donc ils s'éloignent. Alors il n'y a pas à culpabiliser. Dites-vous bien que quand la merde doit sortir, c'est-à-dire tous les trucs noirs qui sont enfouis en nous, ça va sortir par de multiples manières. Et donc, des fois ça passe par les intestins. Donc vous allez des fois vous taper des diarrhées monstres, parce qu'en fait, il faut évacuer quelque chose que le corps a dit, bon maintenant, on tire la chasse de là-dessus, il faut y aller vite. Donc c'est pas dire ouais mais qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce qui m'a fait ça, non. C'est la merde doit sortir. Donc Corinne et moi nous expérimentons, on va dire, différentes façons d'évacuation, on va dire, de nos noirceurs. Alors ça peut se faire via des boutons, ça peut se faire via des douleurs, on va dire, au niveau des os, ça peut se faire via des diarrhées monstres, ça peut se faire via des inflammations, on va dire, au niveau des gencives ou des dents. C'est-à-dire que dès que quelque chose devient inhabituel, enfin inhabituel, on a un truc qui là ça fait mal, etc. Je sais pas comment on en a nous dit, évacuation de merde. Je dis bon, d'accord. Et on va pas plus loin, on se dit pas ouais mais il y a quelque chose qui déconne, si j'ai ceci à telle dent, il faut que j'aille voir le dentiste. Non, c'est simplement la merde qui fout le camp, et donc faut la laisser foutre le camp. Résultat, on va pas chez le dentiste. Résultat, quand on a mal quelque part, on laisse faire. Quand on a les boyaux en feu, on se dit on les a en feu. Puis c'est tout. On laisse faire. On ne cherche pas à soigner quoi que ce soit ou à calmer quoi que ce soit, parce qu'on sait pertinemment que c'est une évacuation de choses que notre corps ne veut plus. Donc on laisse faire. Alors des fois, ça peut aller, dans certains cas, quand c'est assez violent, des vomissements, on peut se retrouver enrhumé, on peut se trouver à avoir des suées mais monstrueuses, alors que y a rien qui dit qu'on devrait avoir une suée. Vous savez, il peut faire 20 degrés, c'est la nuit, mais d'un seul coup, vous prenez une suée monstre. Mais vraiment, comme s'il faisait 40 degrés, c'est infernal, et c'est comme ça. Donc il faut laisser sortir les choses, et pas toujours mettre notre mental et le petit vélo là-dessus en disant oui mais là c'est peut-être dû à ce que j'ai mangé, ou peut-être ceci, ou j'ai tel problème qui a remonté. Dites-vous bien que augmenter sa fréquence, c'est surtout décristalliser les choses. Quand on dit décristalliser, ça veut dire, vous savez, cristalliser, ça veut dire ça fait un morceau comme du sucre. Donc il faut que ça se dissolve. Et après, il faut que ça s'évacue. Donc ça peut s'évacuer par l'air, par l'eau, par les boyaux, mais ça s'évacue. Donc il y a des fois, c'est pas très, on va dire, jouissif et réjouissant, mais d'un autre côté, quand on prend du recul, on se dit, tout ce qui est dans les toilettes ou tout ce qui est dehors, il est plus en moi. Et vous dites, c'est un peu, sur le moment, un peu embêtant, on est d'accord, mais ça fait partie du dégasoilage, du défioulage de la machine. Donc il n'y a pas à se sentir coupable de ça. Hein. Est-ce lié à ce changement magnétique ? J'ai répondu oui. Vais-je ainsi m'éloigner de toutes ces personnes. C'est pas toi qui t'éloignes de ces personnes. C'est que ces personnes s'éloignent de toi pour un certain temps. C'est-à-dire le temps que, on va dire, l'air devienne respirable ou que l'ambiance devienne respirable. Mais ça pourra leur arriver tout autant. Donc quand ça leur arrivera, ils comprendront que, ben, ils disent, ouais, mais c'était pas de sa faute, mais c'est pas de la mienne non plus parce que je vois ce qui se passe là maintenant. Hein? Voilà. Donc, que me conseilles-tu? Sache que mon choix est fait d'avance dans la lumière. Donc, le résultat est simple, t'avances dans la lumière, et tu sais que plus tu vas avancer dans la lumière, et plus tu vas foutre la crasse dehors. Et quand on fout les poubelles dehors, c'est sûr que c'est pas forcément un sujet d'attraction, pour, à part pour les médias, les merdias, hein, c'est pas un sujet d'attraction pour les amis. Donc les amis, il est normal qu'ils s'éloignent. Ils s'éloignent, ils reviendront, vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne seraient plus lumineuses après. Donc, il y a un moment de désagrément, mais il y a un moment d'agrément aussi après. Hein. Une question de Falafel. Ma question sera multiple. Quand la Terre sera à son point zéro, elle n'émettra plus aucun champ magnétique, blackout total, et ce sera aux hommes de la protéger par leur véhicule de lumière activée. Mais ces véhicules, justement, semblent être en partie activés par l'énergie de la Terre. Alors celles-ci, n'émettant plus rien, seront-ils toujours opérationnels? Opérationnel, à moins qu'ils soient alimentés en mode solaire uniquement. Ou ont-ils une autonomie propre permise par un tore actif rotatif permanent, issu de l'énergie de la particule divine propre à chacun logé dans le cœur sacré? Eh bien, Falafel, tu as déjà donné cette réponse. La réponse à la question, c'est qu'effectivement, nous avons tous, on va dire, notre particule d'esprit a une énergie propre, c'est clair. Donc elle va toujours être activée d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas elle qui va activer ton bouclier véritablement, enfin elle va donner l'autorisation parce que c'est elle qui est aux commandes, mais la véritable énergie qui sera déployée va être déployée par le moteur de la Terre, c'est-à-dire ton premier et deuxième chakra. Donc ton premier et deuxième chakra, eh bien cette partie du bas du corps, entre guillemets, ce qui est en dessous du diaphragme, je vous signale, eh bien c'est votre batterie. Et donc votre batterie va être, selon les cas et selon votre fréquence, va être plus ou moins activée. Donc il faut savoir que quand vous mangez, eh bien les aliments sont digérés et vont donner, on va dire, une certaine forme d'énergie. Alors cette énergie peut très bien servir, on va dire, en termes moléculaires à votre corps biologique, mais vous savez, le fameux chi, le fameux ki de nos chers asiatiques, eh bien c'est tout simplement la batterie. Donc cette batterie se charge et se décharge en fonction des cycles de la nature, des cycles solaires, des cycles lunaires, enfin un certain nombre de choses, et la différence qu'il y a entre les individus, c'est la capacité 1 de la charger, parce qu'il y en a qui sont débranchés, donc ils la chargent pas. Il y en a qui sont branchés, on va dire, un tout petit peu, ils arrivent à charger, mais ça se décharge très très vite, parce qu'à côté, ils ont des activités qui pompent énormément. Ensuite, il y en a qui chargent un tout petit peu mieux, mais qui sont incapables de tenir la charge, donc comme dire l'autre, ils ont des fuites. Ensuite, eh bien, quand vous arrivez à commencer à charger un petit peu plus lourdement, c'est là que vous vous rendez compte que vous avez des tas de court-circuits dans la mécanique et que ça vous chauffe à certains endroits, ça se refroidit à d'autres et que vous êtes pas bien. Donc il y a plein d'intermédiaires, mais il faut savoir que par définition, quand vous avez la batterie de totalement rebranchée, vous avez mis un pied dans l'immortalité, tout simplement. C'est-à-dire que vous savez que sur le chemin spirituel, eh bien, il y a des degrés donc de fréquence. Et donc, quand vous avez atteint une certaine fréquence, c'est-à-dire de fonctionnement, eh bien, et ça va nécessiter à votre batterie d'être rebranchée correctement. Donc, c'est ce que vous ferez d'une manière ou d'une autre, et que vous faites déjà, mais d'une manière inconsciente pour la majorité d'entre vous. Donc, quand on est en pure 3D et que la batterie n'est pas branchée, eh bien, on meurt. Généralement, donc on a un processus de vieillissement assez important. Quand on passe en 4D, qui est une zone transitoire, hein, je vous rappelle, parce qu'il ne faut pas confondre la 4D de la planète avec le 4D individuel, hein, c'est-à-dire que vous pouvez, une fois que vous êtes en 4D, commencer à, comment dire, parce que quand vous mangez plus du viande, quand vous mangez plus un certain nombre de saloperies, eh bien déjà, vous allez consommer énormément moins en termes d'énergie. Donc votre circuit va se raffiner et on peut dire que le cycle de charge, on va dire de votre batterie, sera peut-être un tout petit peu mieux, mais surtout que le cycle de décharge sera mieux géré, entre guillemets. Donc ça veut dire que ça tiendra un peu plus longtemps. Donc selon un certain nombre, on va dire, d'avancements, hein, et ceci c'est pour ça qu'il fallait bien d'être approché de certains guides de l'invisible, parce qu'ils peuvent voir où vous en êtes dans votre circuiterie et vous dire ce que vous pouvez faire et surtout ne pas faire. Et là, petit à petit, vous apprenez à monter votre batterie. Donc pour donner un peu d'infos à ce niveau-là, c'est que nos chers involuants ont quand même mis quelques courts-circuits à certains endroits, qui fait que, grosso modo, vous n'arrivez pas à charger d'abord. Ou si vous chargez, ça sera très faiblement. Voilà, donc ça c'est une première chose. La deuxième, vous savez qu'aujourd'hui, les énergies sexuelles sont de plus en plus fortes, ce qui veut dire que Terre-Mère envoie de la sauce, justement, pour charger les batteries. Parce qu'elle sait que vous avez besoin de charger les batteries. Donc plus vos batteries vous seront aptes à se charger, et plus vous serez aptes à déployer votre véhicule, enfin votre Merkaba, entre guillemets. Donc plus vous déploierez votre Merkaba, et plus tôt elle pourra faire le changement d'axe. Donc vous comprenez que Terre-Mère sait ce qu'elle fait, et donc c'est pour ça que cette fameuse énergie sexuelle que beaucoup de gens parlent de Kundalini, tout ça, c'est simplement le circuit électrique, enfin le circuit, la batterie qui est en train de se remettre en haut. Donc la Kundalini monte forcément jusqu'au cœur. Elle va pas plus haut, je vous le rappelle, la Kundalini s'arrête au niveau du cœur, au quatrième, mais ça ne montera jamais au septième. Ça c'est des conneries. Hein. Parce que l'autre, c'est l'eau froide, c'est l'eau du ciel qui descend, et qui va jusqu'au troisième, c'est l'eau froide. Mais l'eau chaude, 1, 2, 3, 4, ça ira pas plus loin. Donc, considérez que si ces énergies sexuelles sont là, c'est pas forcément pour aller copuler à droite à gauche, pas du tout, c'est simplement pour augmenter les batteries, enfin la charge de la batterie. Donc, petit à petit, à fur et à mesure que le temps passe, et que les énergies, entre guillemets, font leur travail, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui se font reconnecter leur batterie. Mais, on va dire, faiblement. Pourquoi ? Parce que si on faisait une pleine charge de batterie, généralement, ils exploseraient parce qu'ils ne pourraient pas tenir la charge. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on est trouvé comme des passoires. C'est-à-dire que, dès qu'il y a accumulation un tout petit peu d'énergie, celle-ci ne tient pas dans le temps. Hein ? Donc, Corinne et moi, nous avons, entre guillemets, nous sommes encore loin d'avoir bouché tous les trous. Parce que c'est comme une passoire à différents maillages. C'est-à-dire que quand vous êtes au premier chakra, les mailles sont très grosses. Hein, comme pour les gros cailloux, quoi. Hein, c'est-à-dire que, il faut des gros cailloux pour boucher les gros trous, quoi. Et puis quand vous passez au deuxième chakra, les mailles sont plus fines. Et puis au troisième, c'est plus fine, hein, etc., etc., etc. Donc on voit que les trois plus gros maillages sont les trois premiers chakras. Et c'est ceux-là qui sont les plus bouchés, entre guillemets. Donc nous avons énormément de fuites au niveau des trois premiers chakras. Et il est difficile d'y arriver à les boucher tous d'un seul coup. Pourquoi ? Parce que nous avons des habitudes, nous avons des routines qui continuent à jouer de la perceuse à fond les manettes. Donc Corinne et moi, on arrivait de temps en temps à monter les batteries suffisamment, et il suffisait, bon, quand on était à la maison, qu'on voyait personne, tout allait bien, donc on pouvait maintenir une certaine fréquence, mais dès qu'on mettait les pieds dehors, on va dire dans un supermarché pour faire les courses, on peut dire que grosso modo, dans la demi-heure, la batterie était à sec. C'est-à-dire que le lieu, les gens, nous avaient pompé littéralement. Donc, quand on revenait, on était à l'état basique, entre guillemets, c'est-à-dire batterie à zéro et avec une fréquence très basse. Donc, on a appris à faire attention, mais ceci n'est pas suffisant. La solution a été surtout, les sorties avant sortaient toujours à deux, si pour faire les courses, il n'y a que moi qui sort. Donc, c'est-à-dire limiter les nombres de sorties, limiter le nombre de contacts, et quand nous sommes à l'extérieur, on traîne pas. C'est vraiment quand je vais au supermarché, c'est pas pour regarder tous les articles un par un. C'est je vais exactement là, je sais où je dois aller, j'y vais. Je veux pas dire que je cours, mais j'y vais et je traîne pas, je ne traîne pas. Et je constate maintenant que pratiquement au bout de 5 minutes, quand je rentre dans un petit supermarché style Leader Price, au bout de 5 minutes, je commence à avoir des malaises. Et j'ai une phase de malaise. Et comme je peux pas faire mes courses en seulement 5 minutes, voilà. Alors j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai la nausée, je me sens pas bien. Et je persiste, je continue à faire les courses, je passe la caisse et je m'en vais. Mais je sais que j'ai descendu d'un cran largement. Quand j'ai ce malaise, c'est que la batterie s'est déchargée brutalement, on va dire. Donc il y a encore beaucoup à faire. Alors je vois que Xavier Carencel va dans les magasins bio, c'est pas mieux pour moi. C'est pas mieux du tout. C'est pas mieux du tout. Dis-toi bien qu'un magasin bio est fréquenté par des gens, même s'ils bouffent du bio, ça veut pas dire qu'ils sont au top et qu'ils ont des hautes fréquences. Non. Non, c'est souvent plutôt des gens qui disent je mange du bio parce que je veux mourir moins vite. Et donc ils sont pas forcément au top, hein. Parce que s'ils l'étaient, ils seraient beaucoup plus souriants dans les rangées, hein. Donc nous avons un problème de batterie, effectivement, et maintenant reste à savoir tout ce qui va se passer, parce que on n'est pas encore arrivé à ce grand basculement, hein, dis-vous bien, c'est seulement quand Termer saura que la masse critique sera suffisante en termes de bouclier individuel, que là les choses vont se passer véritablement. Mais s'il est évident que si elle déclenche la version d'épaule, alors que personne n'est prêt, c'est tout le monde qui va périr. Enfin, je veux dire, il va pas rester grand monde. Donc, elle joue contre elle. Donc, Termer est quelqu'un de très sage, hein, qui joue un jeu, mais à un autre niveau, et elle a absolument pas intérêt de faire que l'humanité disparaisse. Qu'il y a un tri dans l'humanité, ça c'est une évidence. Mais qu'elle disparaisse complètement parce que simplement elle a voulu aller plus vite que prévu, non. Alors j'en étais où? Voilà, bon donc oui j'étais falafel. Donc voilà, donc nous avons effectivement une très 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 petite batterie au niveau des joyaux du cœur, mais ça c'est pour tenir la charge en termes de conscience, mais il est évident, quand nous serons dans cette fameuse période de stase, il est évident que ça vous serez conscient, ça veut dire que la batterie de ces trois joyaux du cœur sera en route et vous permettra de rester conscient. Alors, j'en étais où? Donc, le passage de ce blackout de la Terre sera-t-il protégé par tous ces humains autonomes devenus mortels rayonnant comme des soleils? Oui, hein, donc ça j'ai répondu, effectivement. C'est pour ça que plus nous serons nombreux et plus... parce que tous nos microchamps vont s'additionner et c'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 donne 5, non, ça sera 1 plus 1 donne 3, qui plus 1 donne 10, qui plus 1 donne 30, etc. Donc il y a un effet quelque part, je vais pas utiliser ce mot parce que tout le monde l'utilise à tort et à travers, mais il y a une espèce d'effet quantique que pour l'instant nous ne percevons pas bien en tant qu'humain, parce que nous voyons tout en linéaire, et on additionne des 1 plus 1 plus 1, c'est égal 3, quoi. Enfin, on en est là, quoi. Alors, quid de l'autonomie énergétique? Alors, le truc qu'il faut comprendre, hein, et moi je vais quand même lire le reste de ta question, et du coup, Kundalini et Feu du Cœur ont-ils l'autonomie propre sans lien avec l'énergie de la Terre? La réponse est oui. C'est-à-dire que si ta batterie est chargée, eh bien, ta Kundalini, elle fonctionne, et ton Feu du Cœur aussi. Faut savoir qu'à chaque fois que tu vas faire un feu du cœur, tu utilises ta batterie. Et qu'à chaque fois que tu déclenches ta Kundalini, tu utilises ta batterie. Donc, tant que tu n'es pas branché, on va dire, d'une manière définitive, que tu es en charge, c'est-à-dire que tu perds pas l'énergie qui est accumulée, à ce moment-là, tu peux jouer de la Kunda et des feux du cœur autant que tu veux. Mais, dans l'état actuel, si tu t'amuses à faire du feu du cœur tous les 5 minutes, c'est sûr que tu vas être fatigué et t'attendras pas à la fin de journée. C'est parce que tu n'auras plus d'énergie pour le faire. Hein? Donc, le rebranchement de la batterie est quelque chose de très 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 important. parce que il dit que vous devenez absolument autonome. Ça veut dire que si le rebranchement de la batterie est fait à 100%, ça veut dire qu'aussi tous les trous ont été bouchés, hein, c'est à la but de fuite, ça veut dire que vous êtes devenu véritablement un créateur incarné avec tous les pouvoirs. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de l'énergie de terre-mère pour dire « je vais me mettre debout et pouvoir marcher ». Vous avez absolument tous les pouvoirs puisque vous êtes devenu tout simplement un immortel. Donc l'immortel, il n'a plus le problème de l'énergie, il dit « il faut que je trouve à manger sinon je claque ». Il n'a plus ce problème-là. Hein, il saura comment s'alimenter et pas seulement en bouffant des trucs locaux. Une question d'Isabelle. Après ces trois nuits de l'Inde, toutes les technologies actuelles seront-elles donc HS, électricité, radio, et tout n'étant que projection de notre mental, la Terre aura-t-elle gardé le même aspect malgré tout quand nous émergerons? Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, nous sommes dans une espèce de sphère holographique totale. Donc c'est pour ça que ces trois jours, etc., c'est par rapport à trois rotations de la Terre, mais c'est surtout par rapport au processus d'intégration. Hein. Vous savez qu'il faut au moins répéter trois fois minima, enfin trois jours minima, hein, 3, 7, 21, rappelez-vous ça. Donc trois jours, c'est trois rotations minimales de la planète, de telle manière que l'on puisse ancrer une information dans le subconscient. Donc c'est pour ça que ça va durer trois jours, et pas 15. Les technologies actuelles, où seront-elles? Je n'en sais rien véritablement. De toute façon, une chose est claire, c'est que s'il n'y a plus de champ électromagnétique, il n'y a plus rien d'électrique qui va fonctionner. C'est une évidence. Voilà. La Terre aura-t-elle gardé le même aspect malgré tout quand nous émergerons? Eh bien, il faut savoir que l'aspect de la planète que nous regardons appartient au collectif de l'humanité. Donc, ça, je peux pas te répondre véritablement de ce qui va se passer. Probablement qu'il y aura des nouvelles choses et probablement qu'il va en manquer un paquet. Donc, on verra comment ça se passera, parce que pour l'instant, on n'y est pas arrivé, et deux, quand on en sortira, on verra peut-être un peu mieux ce qui se passe. Mais pour l'instant, ça reste trop mental, on va dire. Hein. On vit chaque instant, et puis on voit ce qui se passe après. Puisque Terre-Mère effectue son basculement, il devrait en être tout autant pour nous. Est-ce donc pendant cette transition que nous allons effectuer le retournement? Alors là, il y a une petite confusion. C'est que quand on parle du retournement dans d'autres écrits en général, c'est tout simplement par rapport à ton moteur de l'humain. C'est-à-dire ton moteur de l'humain, est-ce qu'il regarde toujours vers le bas, vers la matière, ou est-ce qu'il regarde vers le haut? Donc, comme tu sais que le moteur de l'humain est, entre guillemets, le siège de l'âme, eh bien, est-ce que l'âme continue à croire qu'il faut qu'elle ait une piscine, une grosse bagnole, une femme et des gosses pour exister, ou est-ce qu'elle se dirige vers la lumière en se disant « je roule d'abord pour la lumière, j'augmente ma vibration, et tout le reste me sera apporté ». Donc, le truc qu'il faut pas confondre, ça c'est déjà une première chose. Donc le retournement de l'âme, entre guillemets, est quelque chose, bien sûr, qui doit arriver avant le basculement des pôles. Parce que si il n'a pas été fait avant le basculement des pôles, l'individu va absolument, absolument rien comprendre de ce qui se passe. Garderons-nous pendant cette transition un contact avec nos petites voix et notre être cristallin? Alors, la réponse est oui et non. Yes. Parce que tout va dépendre. Quelle est la nature et la consistance du contact que tu as avec eux? C'est-à-dire que si le contact est faible, ton état de panique va donc être suffisamment grand pour faire que, en fait, la communication soit infime, voire coupée. Par contre, si la communication est forte, c'est-à-dire le lien est très fort, et que à ce moment-là, ton état de panique va être faible, puisque tu seras beaucoup plus en paix, eh bien à ce moment-là, la connexion restera. Donc on voit bien qu'il va y avoir un tri énorme qui va être fait à ce niveau-là lors de ce basculement. C'est-à-dire que, comme dirait l'autre, vous savez, il y a Attends, comment on dit ça? C'est franchement, ils m'ont tout déconnecté là-haut, mais bon. Le cœur a des raisons que le mental ignore. Ben, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que la connexion avec ton âme, avec ta petite voix, avec tes esprits cristallins, ont des façons de fonctionner que ton mental, il comprendra rien du tout de ce qui se passe. Donc, si ton mental vient paniquer parce qu'il est dans la peur, due, bien sûr, à l'ignorance principalement, eh bien, il va bloquer toutes les communications. C'est pour ça que quand on voit quand il y a des événements un peu spéciaux qui se passent, on peut dire la catastrophe naturelle, n'importe quoi, ou situation de panique, les gens sont en panique tout de suite. Alors qu'un geste simple aurait pu tout arrêter, eh ben non, ils font des conneries, parce qu'ils sont en mode panique totale. C'est-à-dire, ils se fient à pas grand-chose. Ils n'écoutent plus leur petite voix, quoi. Voilà. Et donc, bah, il leur arrive forcément des catastrophes. Et comment va s'effectuer ce ménage à quatre, surtout si avec notre âme, puisque c'est sa nuit? Quand on dit la nuit de l'âme, c'est-à-dire que comme elle n'a pu avoir de référence, effectivement, là, elle va traverser un désert. Et donc là, c'est pour ça qu'on dit c'est la nuit de l'âme. Dites-vous bien que quand on dit la nuit de l'âme, ça veut dire que l'âme est issue du deuxième chakra, principalement, donc du moteur de la Terre. Vous coupez le contact avec la Terre. Elle n'a plus de contact, donc elle perd toutes les références. Et pour elle, c'est la nuit. Alors, je sens très bien la couronne au niveau du front, mais c'est déjà moins évident de celle de la racine. Les informations, on va dire, du ciel rentrent par la couronne du haut, on est d'accord, alors que par le bas, c'est plutôt une forme d'énergie. Et donc, c'est pour ça que tu n'as pas l'impression de ressentir la couronne du bas. Et c'est normal, parce qu'il y a, on va dire, une configuration énergétique que tu ne sais pas encore, donc c'est pour ça que tu poses la question. Et il faut savoir que au niveau de la tête, mais ça fait partie directement du prochain article, que j'ai déjà plus ou moins fait, mais qu'il faut que je refasse parce que c'était, on va dire, un brouillon, c'est que en haut, vous avez ce qu'on appelle les étoiles de Marie, c'est comme une couronne, et cette couronne, vous ne l'avez pas en bas. Pourquoi? Parce qu'en bas, il n'y a pas de couronne. Il y a autre chose qui s'appelle l'arbre de vie. Donc, il est tout à fait normal, c'est comme si tu disais, je ne vois pas les feuilles au niveau des racines. C'est normal, parce que là où il y a les racines, il n'y a pas de feuilles. Donc le chakra couronne, tout en haut, lui, il y a des feuilles, et donc tu peux les percevoir. Par contre, au niveau des racines, il n'y a pas de feuilles. Donc c'est pour ça que tu n'arrives pas à le choper. Alors, où je ne sais la reconnaître, vu que toutefois il y a une énergie au niveau des organes sexuels, sans pour autant avoir une envie de copuler. Donc, tu ressens l'énergie, c'est une chose. D'accord? Mais en haut, c'est de l'information qui t'arrive. C'est différent. Comme le pôle Nord devient le siège de la 4D en basculant, y a-t-il un rapport avec la précédente série sexualité, cette inversion, donc un lien direct entre sexualité sacrée et cœur? Oui. Rien n'est fait par hasard. Il y a une progression dans les articles que je vous donne. Ça se voit peut-être pas forcément à première vue, mais il y en a une, donc on commence gentiment. Donc vous avez pu voir qu'en attaquant par le moteur de la Terre, c'est-à-dire la sexualité, etc., maintenant on a commencé à aborder, on va dire, le moteur de l'humain, c'est-à-dire la nuit de l'âme, par exemple. Mais après, on va passer aussi dans le moteur du ciel. Donc c'est tout un truc progressif. Ne vous inquiétez pas, vous allez venir gentiment aux choses les unes après les autres. Pour ceux qui sont accompagnés de leur véritable compagnon ou compagne, feront-ils la transition à deux ou chacun en soi, espérant se retrouver ensuite? De toute façon, c'est une expérience absolument individuelle. Donc, vous prendrez la main de personne. Vous serez dans le coltard total. C'est simple. Vous êtes un esprit qui est en totale projection holographique. Résultat, là, on va vous couper l'écran. On va vous couper la connexion, on va dire, à l'humanité. Résultat, vous allez plus avoir que votre seul écran à vous et rien d'autre. Donc imaginez qu'avant, on était comme des boules de golf, entre guillemets, comme si vous aviez un tonneau complet de boules de golf ou de balles de tennis, et puis tout le monde se brasse ensemble, donc ça se touche, ça, tatati, tatata. Là, chaque balle est séparée les unes des autres et n'a plus aucun contact. Donc vous ne savez plus du tout ce qui se passe avec les autres, et vous ne pouvez pas le savoir. Donc après, ce qui va se passer après, ça c'est une autre histoire, parce que vous ne pouvez absolument pas savoir ce qui va se passer chez l'autre. chez votre compagnon ou chez votre compagne. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer chez elle et où elle va sortir, etc. Donc, comme dirait l'autre, vous savez quand vous passez la, quand vous franchissez la ligne de départ, mais vous savez pas du tout si vous allez être tous les deux à l'arrivée. Ça, il y a absolument rien qui le dit. Et dites-vous bien, nous sommes tous uniques. Donc, ne planifiez rien, même si vous dites, oui, on est en force, on est complètement ceci, complètement cela. Dites-vous bien que la personne qui est en face de vous, c'est pas juste cette personne-là, c'est la totalité de toutes ses vies antérieures et de toutes ses vies futures qui sont dans la balance. Et donc ça, vous pouvez pas savoir combien de mecs elle a eu avant dans ses vies antérieures et qui n'étaient pas vous. Et combien elle a eu d'autres mecs dans les vies futures. Sortez du cadre de dire voilà dans ce monde moi Tarzan, elle Jane, voilà, sortez de ce monde là parce que franchement nous sommes simplement des entités en expérimentation et nous échangeons de l'information entre entités, mais il n'y a pas de lien permanent, on va dire, de dire ouais ben nous on était ensemble dans cette vie là on va toujours rester ensemble parce qu'on s'aime. Arrive à un moment, ça roulera plus. Pourquoi? Parce que vous aurez à expérimenter d'autres chemins et surtout bah, à amener de l'eau fraîche à votre moulin. Parce que s'il n'y a pas d'eau fraîche, bah, vous allez tout simplement déterrer. Dites-vous bien que le monde est mouvement et le mouvement n'aime pas du tout les choses statiques et qui ne bougent plus. Une question de Nandi. Cette période de stase, pourrais-tu nous la décrire en détail? Dormirons-nous? La réponse est oui, physiquement, vous dormirez. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune activité extérieure, car je vous rappelle que toute cette activité extérieure est en fait un truc projeté sur un écran. Donc tout ça, ça va disparaître, ça sera off. Donc pas question de se dire ouais, voilà, il faut que je m'occupe de mon chien et puis ma fille, qu'est-ce qu'elle va devenir. Tout le monde sera off. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Quand on est off, on est off. Voilà. Donc physiquement. On n'aura pas se lever pour aller aux toilettes, pour dire non j'ai faim, ça n'existera pas, ça n'existera plus pendant 3 jours. Enfin, au moins 3 jours. Gardez-vous bien, certains se réveilleront, d'autres pas. Et s'ils ne se réveillent pas, c'est qu'ils seront partis ailleurs. Alors, serons-nous éveillés ce qui serait nécessaire pour être face à nous-mêmes? Alors, tu seras éveillé dans le sens intérieur, c'est-à-dire que tu seras comme dans un rêve et tu regarderas et tu verras les choses. Mais il n'y aura plus aucun contact avec l'extérieur, d'où ce nom de « nid de l'âme ». C'est-à-dire que tu as perdu toute référence, et tu vas être face à toi-même, et donc à tout ce qui t'habite. Serait-ce cette période des 3 jours d'obscurité tant décrite, oui. Pendant cette période, s'il n'y a plus d'électricité, il n'y aura donc plus d'eau, et pour le cas où je serai encore là à ce moment-là, je pense que c'est donc le moment à partir d'aujourd'hui de commencer, non pas à dévaliser les supermarchés, mais à se constituer un stock de bougies et autre chose de première nécessité. Cela fait, j'aurai alors toute mon énergie dirigée sur l'état de stase et sa signification. Même les lampes qu'on recharge avec une manivelle ne fonctionneront plus. J'en sais rien du tout, véritablement, mais il est clair que... par précaution. Vaut mieux avoir un petit peu de... ça ne veut pas dire faire des stocks à la survie, mais c'est bien quand même d'avoir un minima syndical. On ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir derrière, pour la majorité des cas, donc ça interdit pas d'avoir quelques kilos de pâtes en stock. Hein, ça interdit pas d'avoir des bougies en stock, ça interdit pas, mais bon, il ne faut pas que ça remplisse la moitié de la piole quand même. Hein. Non, parce que si des fois on dit quelque chose, il y en a qui vont aller acheter 2 tonnes de bougies, 5 tonnes de haricots secs. Enfin non, soyez raisonnable, mais ne soyez quand même pas idiot à croire que dès que vous allez vous réveiller, tout vous sera donné comme ça, que spontanément, parce que vous le méritez, quelqu'un vous offrira la bougie qui vous manque. Soyez quand même un minima responsable de savoir qu'il va y avoir quand même une période de flottement quand même. Donc pendant cette période de flottement, bah s'il y a quelque chose, c'est bien, c'est mieux que rien. Et si vous vous réveillez pas, alors là on foutrait complètement. Et je vous rappelle que si vous vous réveillez pas là, ici, maintenant sur cette terre, c'est que vous vous réveillerez ailleurs sur notre planète. Voilà, c'est simple. Donc vous n'aurez pas à vous soucier de vos bougies si vous êtes ailleurs. Pendant cette période, il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura donc plus d'eau, et pour le cas où je serai encore là à ce moment-là, je pense que c'est donc le bon matin, j'ai répété ça, tout ça. C'est donc aujourd'hui qu'on doit se pencher sur nous-mêmes et lâcher tout de la 3D. Pourrais-tu nous dire, comme à des débutants assistant à un cours pour la première fois, avec des mots simples, ce que cela veut dire réellement? Il y a bien des choses qu'on aimerait lâcher, mais comme il faut bien manger, on doit continuer avec le sourire tant qu'à faire. Alors, après, tout dépend ce que ça veut dire la 3D. Hein. Chacun voit midi à sa porte, et tout dépend bien sûr où vous en êtes dans vos fréquences. Donc, vous pouvez bien sûr toujours continuer à aller au boulot, ça c'est pas un problème, mais tout dépendra en fait de l'état d'esprit dans lequel vous allez y aller. Si vous y allez juste pour dire « Oh, c'est pour gagner ma vie », bon, ok. Donc, il faut savoir simplement dépasser tout ça, et puis ben, vous verrez ce qui se passe. Moi, je ne suis pas à votre place, et votre esprit directeur a décidé d'un chemin pour vous. Donc, écoutez votre petite voix, et vous verrez, et faites confiance. Ayez la foi, comme on dit. C'est ça, avoir la foi. C'est dire, de toute façon, on me partera, mais quand même, c'est moi qui dois quand même bouger mon cul, mais pas avec mes intentions propres, simplement en écoutant la petite voix. Donc, agir, mais pas de votre propre chef. Agir avec le consentement de votre petite voix. Donc, c'est quelque chose que vous allez apprendre à faire de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, vous allez demander systématiquement à votre petite voix si elle est d'accord. Si elle vous dit non, faites pas. Jusqu'à maintenant, qui demande à sa petite voix l'autorisation de faire quelque chose? Vous faites. Puis après, vous dites « Ah merde, j'aurais jamais dû faire ça. » Bah oui. Mais si vous l'aviez demandé à votre petite voix, elle vous aurait dit non tout de suite. Et si c'est, il y a des fois, vous dites « Non, non, ça, je vais pas le faire, parce que là, peut-être que ceci, que cela. » Je demande à la petite voix, elle me dit, et elle te dit oui. Alors, tu fais. Voilà. Donc, il y a de plus en plus, et vous savez très bien que la 4D, ça va être écouter sa petite voix. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions. Et vous verrez qu'elle vous répondra. Alors, il y a plusieurs méthodes, hein, mais ça, à chaque fois, je répète, donc il y en a marre. Il y a beaucoup de façons d'écouter sa petite voix. Hein, il y en a des relativement simples. Servez-vous simplement de votre corps comme pendule. Hein, vous mettez droit, vous fermez les yeux, vous demandez à votre petite voix de vous dire oui. Et vous verrez comment votre corps va bouger, qu'est-ce qui va se passer dans votre corps. Et ensuite, vous lui dites, s'il te plaît, dis-moi non. Et voilà. Et puis après, quand vous serez déjà après vous dites je sais pas, pas de réponse, vous donnera un autre signe, et à partir de ce moment-là, vous pourrez demander. Et c'est pour ça que le truc, c'est que moi, bien que je puisse entendre ma petite voix venir dans ma tête, sachez qu'elle est très très proche de la petite voix normale, c'est-à-dire la voix mentale que vous avez dans le crâne. Donc des fois c'est difficile de dire ouais merde, c'est laquelle qui est en train de me causer. Et voilà, donc je joue au pendule, hein, c'est-à-dire au pendule avec mon corps, et là, je me mets debout, hein. Généralement je me mets debout, j'ai dit là, est-ce que c'est ça? Et là, c'est la réponse est, elle ne peut pas être trafiquée par notre mental ego, donc vous êtes sûr que c'est la vérité. Et donc, systématiquement, dès que j'ai le moindre doute sur la réponse qui m'est faite à l'intérieur de la tête, je me lève, hop. Et là, je laisse pas le choix. Donc, mon mental ego sait très bien que s'il essaye de jouer au malin, il me fera faire un effort, celui de me mettre debout. Mais aussi, s'il a essayé de corriger, il va se faire taper sur les doigts dans le sens que je l'aurais chopé. Donc, voilà. Donc, pas de cadeau. Si j'ai un doute, je me lève et je joue au pendule. Avec mon corps, hein, pas avec un pendule. Bon, ça peut le faire. Mais faites-le avec votre corps directement, ça va plus vite. Surtout si vous êtes au supermarché, quoi. Hein. Quand vous regardez un truc, vous dites, bon, ça je peux me le permettre. Si vous n'allez quand même pas sortir votre pendule avec votre cadran, vous dire, s'il te plaît, dis-moi non. C'est hop, hop, c'est instantané, c'est fini, terminé. Et donc, maintenant, il faut le faire pour tout, absolument tout. Et vous allez voir qu'à la fin, ça va devenir tellement automatique que ça vous dira, je communique avec ma petite voix, ouais. Niveau 1, oui, non, mais ça suffit. Hein. Après, vous verrez, mais bon, il y a d'autres étapes. Pour l'instant, je n'en parle pas trop parce que faut commencer par le oui, non, niveau 1. Hein. Alors, Seulement, si cela n'est pas indiscret, comment te prépares-tu pour cette période de stase, mentalement, géographiquement et physiquement? Tu es beaucoup moins programmé et moins conditionné comme nous, et cela pourrait déclencher des petits clics chez nous. Alors, d'abord, je me prépare pas. Voilà, donc ça c'est déjà pour moi, je pense, un élément important, c'est que cette période de stage, je m'en fous. C'est-à-dire, je lui donne pas de crédit, dans le sens que, grosso modo, tous ceux qui parlent de ces 3 jours de stage ont généralement une peur planquée derrière, même s'ils s'en cachent. Je dis, non, non, c'est juste pour savoir. Non, non, ils s'en cachent. Donc, c'est sûr que votre âme, elle sait que c'est une épreuve qu'elle doit passer. Hein. Ça va être difficile pour elle, c'est évident. Pourquoi? Parce que elle n'est pas née d'origine, on va dire, divine. C'est-à-dire que c'est nous, dans notre expérimentation, qui l'avons créée. Donc, elle n'a pas, on va dire, les 3 joyaux du cœur en tant que telle. Donc, il va falloir qu'elle montre ce qu'elle a dans le coffre. Donc pour elle, ça va être une épreuve. Elle le sait. D'accord? Donc ça peut foutre les chocottes. Donc moi, je ne m'y prépare absolument pas. Je dis chaque jour sa peine ou ses joies. Ça dépend comment on regarde le monde. J'avance. Je dis chaque jour, je pousse le bouchon plus loin en étant moins, dans les émotions. C'est en regardant les émotions, mais en ne me laissant pas, on va dire, mener par le bout du nez par les émotions. Par exemple. Chaque jour, si je peux choper un programme un peu loin, je le chope. Chaque jour, dans notre quotidien, on avance. Ça se fera, ce truc de stase, ça se fera quand ça se fera. Que ça soit dans un mois, que ça soit dans un an, que ça soit dans 10 ans, je m'en fous. C'est que de toute façon, moi, chaque jour, je fais un pas. Ou plusieurs, ça dépend comment on regarde, ou des demi-pas, je m'en fous. Je m'en fous de ça. Je sais une chose. Et ça, c'est ce que nos guides nous ont dit. Ils disent, si tu es en permanence tourné vers la lumière, si tu es en permanence tourné vers l'attention, vers ta conscience de ce que tu fais, eh bien, quand ça va arriver, toi, tu vas continuer ton train-train. C'est-à-dire que tu vas être avec une inertie comme un train qui est lancé. Et donc, 3 jours, ça ne te paraîtra rien du tout. Tu seras lancé dans ton truc, t'auras accumulé une énergie cinétique suffisante pour traverser l'épreuve sans même savoir qu'il y en avait une, quoi. Alors bien sûr, tu vas la traverser comme tout train peut traverser un pont, un tunnel, excusez-moi. Mais il sait que dans le tunnel, il y a les rails et qu'il n'a pas à s'en faire, même s'il voit plus rien, il avance. Il sait que sous le tunnel, il n'y aura pas un arbre qui sera tombé en travers des voies, parce qu'il n'y a pas d'arbre sous un tunnel. Donc il va continuer. Et puis, arrivé à un moment, il verra le bout du tunnel, et puis il dira super. Mais parce qu'il aura une certaine vitesse. Par contre, si vous abordez tout ça en disant, il va y avoir un tunnel, il faut que je ralentisse, faut que je fasse gaffe, faut que je fasse des provisions, comment je vais réagir, est-ce que j'aurai la radio? Mais vous n'arriverez même pas au milieu du tunnel. Vous serez arrêté en disant, bon, on fait quoi là maintenant? Vous savez, ça fait un peu comme les trains à vapeur, quoi. C'est-à-dire que si vous restez au milieu du tunnel, vous allez vous enfumer et puis vous ne redémarrerez pas, quoi. Donc, vaut mieux y aller à une bonne vitesse qui fait que la fumée que vous évacuez sera derrière vous et pas devant vous. Hein, elle vous asphyxiera pas. Donc, c'est pour ça que c'est un entraînement quotidien de se dire, voilà, je prends conscience des choses, je lâche prise des choses et j'attends pas. Je fais tout ce que je peux faire en mes pouvoirs maintenant. Voilà. Donc, je sais pas si j'aborderai le tunnel à 20 km/h, à 50 km/h ou à 300 km/h. Je m'en fous. L'essentiel est d'accumuler de la vitesse. Et c'est pas par peur du tunnel. Pas du tout. On s'en fout. Les tunnels et les ponts, il y en a partout. Là où il y a des chemins de fer. Donc, on se prend pas la tête avec ça. Il vaut bien que cette stase de 3 jours n'est qu'une étape. C'est juste un tunnel, mais il y a encore du chemin derrière. Donc, c'est pas un aboutissement. Voilà. Donc, géographiquement, je reste à la maison le plus possible. Hein. Bon, j'essaie de fréquenter le moins possible la 3D quand même. Physiquement, je suis au courant. C'est-à-dire que bon, C'est ta prochaine question, je continue. Pour nous préparer la suppression de beaucoup de choses dans notre alimentation, cochonnerie, viande, médicaments inutiles, etc., aidera sûrement notre corps mental à être plus léger, plus en haut. Alors, il est évident que moins on bouffe de saloperies et moins on en a à évacuer. Ça, c'est la première de toutes les choses qu'il faut comprendre. Comment procèdes-tu pour toi-même? C'est simple. Je vis mon instant présent dans le sens où quand j'ai faim, je mange, quand j'ai pas faim, je mange pas, enfin, j'essaye. Hein, des fois, on a des petites routines, mais bon, faut quand même pas devenir un maniaque. Hein. Non. Si j'ai envie d'une glace, je mange une glace. Puis voilà. Des fois, j'ai un petit fait pour un truc, allez hop. Hein, et puis, des fois, je me dis, non, là, faudrait peut-être arrêter, là. Hein. Et puis j'arrête, j'ai dit, ok, ça y est, maintenant, j'ai fait une croix dessus, c'est terminé. Allez hop, on passe à autre chose. Et petit détail par petit détail, comme ça, tranquillos, vous savez, j'essaie pas de renverser la montagne, mais on va dire caillou par caillou, on la déplace. Hein? Voilà, donc perso, si je pouvais manger que des fruits et boire que de l'eau, ça me dérangerait pas. Mais les fruits non pollués se font de plus en plus rares, pratiquement tout est pollué, même notre air. Je souhaite souvent n'avoir pas besoin de manger. Eh oui. Mais nous sommes encore dans un corps carboné, même s'il tire au silice, on est encore dans un monde carboné, donc il nous faut quand même à lui donner encore à manger. Et concernant la flotte, bon, je pense que vous en avez suffisamment appris sur le site Être de la Nature, concernant l'eau et la qualité de l'eau, et etc. Ça, je pense que je vous ai donné quand même suffisamment à ce niveau-là. Donc ici, nous buvons, on va dire, beaucoup d'eau. Nous mettons des cristaux encodés pratiquement partout. Ça veut dire qu'il y a une pastèque, on lui met un suppositoire, enfin je veux dire, on la coupe, on y met un ou deux cristaux encodés dedans, on ferme le tout, on laisse faire. Mais tout, absolument tout, c'est mécanique. Cristaux encodés partout où on peut. Voilà. Donc comme ça, on est sûr qu'il y a un minima de nettoyage qui est fait, quoi. Hein, pour les fruits et légumes, c'est pareil, on essaye si possible de les faire tremper quand on peut les faire tremper, bien sûr. La pastèque, on fait pas, donc on met les cailloux dans la pastèque, ça va plus vite. Mais des trucs comme ça, tout con, mais bon. Voilà, et tout ce qu'on boit, d'une manière ou d'une autre, bon, bien sûr, on évite hein, tous les sodas, toutes les saloperies comme ça, on est d'accord. Donc moi, j'ai un moteur à eau depuis 30 ans, donc je bois que de la flotte pratiquement. Je rajoute pratiquement rarement quelque chose avec. Et si c'est le cas, c'est l'inverse qui se passe. C'est le jour j'ai acheté le panaché, histoire de dire, tiens, ça fait longtemps. Et avant de boire le panaché, je mets quand même un peu d'eau encodée dedans, quoi, histoire que ça soit encodé. Oui. Hein? Alors, une question de Vincent, que manges-tu en quantité et par jour par curiosité? Écoutez, c'est relativement simple. Je mange nettement de moins en moins. Et le truc, c'est que on va dire que. Je veux pas dire que je fais un repas par jour, parce que c'est même pas un repas. Disons que le matin. Je vais grignoter un petit bout. Quand j'ai un petit bout, c'est un petit bout. Ça va être quelques biscuits, un bout de pain éventuellement. Mais voilà. Mais tout dépend à quelle heure je me suis levé. Tout dépend. Il y a quand même beaucoup de paramètres. Et puis, ensuite, on va dire en cours de journée, je peux manger un bout de pain avec un bout de fromage. Ah oui, je mange du fromage, moi. Et pas n'importe lequel, parce que y a certains fromages que mon corps ne veut absolument pas, enfin particulièrement certains champignons, hein. Donc camembert, vous oubliez, hein. En fait, bon, c'est des fromages cuits en règle générale. Et donc le soir, généralement, on essaie de le faire assez tôt, parce qu'on n'aime pas que ça soit trop tard, parce qu'après ça nous dérange. Vers les 6 heures à peu près en moyenne, on essaye de tenir cette horaire-là. On se prend une salade composée. Enfin, quand je dis on, généralement on se prend, hein, mais souvent c'est moi qui la prends tout seul, parce que l'ami se prend toute petite chose à côté, mais qui n'est pas la salade. Salade composée. Alors j'ai un saladier. Enfin, c'est pas un trop grand saladier, hein, parce que des fois quand c'est trop grand, après moi quand je me relève, je peux plus. Donc, c'est un saladier moyen. Et dès qu'il est rempli, bon, salade verte, tomate, enfin ce qui traîne un tout petit peu en légumes qu'on a plus ou moins à droite à gauche. Voilà. Donc, si je résume, ce que je mange actuellement par jour est inférieur à un repas.